Vendredi 18 novembre de l'an de grâce 2011, vous écoutez La Vie en BD sur les ondes de CKRL 89.1. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à cette nouvelle édition de La Vie en BD, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30, toujours un plaisir bien entendu de vous retrouver, démarrer comme ça la fin de semaine ensemble et de la démarrer bien entendu sous le signe de la bande dessinée, du fanzine, de l'illustration, de l'animation. Et cette semaine, on va aller faire un petit tour notamment du côté de Montréal, puisque ben, là-bas, il y a le Salon international du livre de Montréal, évidemment, et on va en profiter pour avoir une belle rencontre, du moins j'espère qu'elle sera belle, j'en suis presque certain, l'auteur Bastien Vivant qui sera avec nous un peu plus tard ce soir pour parler de ses récentes parutions, notamment Paulina, peut-être pour revenir aussi sur quelques autres de ses albums, notamment Le goût du chlore dans mes yeux, un auteur, si vous ne le connaissez pas, qui mérite de découvrir, et si vous le connaissez, ben, probablement que vous êtes aussi excité que moi à l'idée de pouvoir discuter un tantinet avec lui. Également, on recevra un auteur québécois, Jean-Sébastien Bérubé, troisième tome de la série Radisson, une série qui a très bien fonctionné à l'échelle québécoise. En fait, le premier tome a été cherché à peu près 2000 ventes, ce qui est très bon pour une BD québécoise, avouons-le. Il en est déjà à son troisième tome, l'avant-dernier de cette série qui essentiellement propose une biographie de Pierre Estry Radisson. Alors Jean-Sébastien Bérubé sera avec nous tout à l'heure. Côté chronique, ben notamment, il y aura Thomas-Louis Côté qui sera de passage. On va jaser avec lui des contrats en BD, comment ça marche là, la dynamique contractuelle. Et également, il y aura dans quelques instants Sam Murdoch qui sera avec nous pour parler de quelques comics web qui sont devenus des livres. On aura de très, très belles suggestions pour vous. J'en ai vu quelques-unes tout à l'heure et je vous garantis qu'elles sont fort sympathiques. Voilà. Alors, ben pour l'émission de cette semaine, et comme à chaque semaine, on vous propose également une petite sélection musicale qui nous accompagne au fil des extraits et au fil de l'émission. Pour cette semaine, il s'agit d'un artiste new-yorkais qui s'appelle Tristan O'Donnell, un projet qui s'appelle Veils. Troisième album de cette formation. L'album s'appelle Guilty Ghost. Alors, les fantômes coupables. Et on écoute donc quelques petits extraits. Un premier, tiens, The End of Akira. Voilà, petit extrait donc de la formation Veils qui, je rappelle, nous accompagnera tout au fil de l'heure. Je vous incite également à aller faire un petit tour sur le site de CKRL, www.ckrl.qc.ca. Pourquoi? Ben, toujours bien entendu des informations pertinentes sur les activités de la station, mais également la station est en train de préparer son gala annuel. Alors, gala qui invite les gens à voter, à appuyer, à signaler leurs préférences, donc leurs émissions favorites. Alors, si vous rendez sur le site, ben, vous pouvez aller voter pour vos émissions préférées. Peut-être pour La Vie en BD, qui sait. Alors, je vous lance l'invitation. Et maintenant, cela étant dit, Sam Murdoch, bonjour.
Salut Raymond, ça bon vendredi.
Bon vendredi à toi également. Alors, cette semaine, Sam, tu nous amènes sur le terrain, je le disais en introduction, là, d'albums web qui sont devenus des albums papier.
Oui, donc j'étais chez nous cette semaine, puis là, J'étais sur le blog, La vie en BD, WordPress. Puis là, je regardais ma chronique, donc je regardais sur Internet de quoi j'allais parler, puis ça dit que j'allais parler des nouveautés. Puis chaque semaine, je lis tous les comics de Batman, donc les 16 comics mensuels de l'univers de Batman de DC. Puis ça se mélange un peu dans ma tête, puis je me suis rendu compte que finalement, que dire d'autre que c'est Batman qui se passe à Gotham. Puis là, j'étais sur le web, sur l'ordinateur, donc on passe beaucoup de temps. Je me suis rendu compte, je passe possiblement plus de temps...
À lire sur le web.
Sur le web, être sur l'ordinateur. Puis souvent, je fais des blagues de iPad, je fais des blagues de iPod. J'ai pas d'iPod. J'ai pas lu jamais de comics sur ces nouveaux médiums-là, les formats. Sauf que j'ai lu beaucoup de comics web directement sur un ordinateur depuis des années. Fait que là, je me suis dit, on va signer une chronique, parler de comics web. On est toujours sur Internet, fait que...
Oui, puis en fait, nécessairement, ça devient un médium qui est de plus en plus important, de plus en plus utilisé, autant par les dessinateurs que par les lecteurs. Ouais. Il y a des très, très beaux produits et poursuites, en fait, parce que il y a possibilité aussi, souvent, quand on apprécie une web-série, de la retrouver sur Internet. C'est valide pour plusieurs blogs québécois, ouais. Et c'est valide, on va le voir, sur plusieurs webs aussi américains. Et anglophone.
C'est le truc côté anglophone, il y a américain, canadien, que j'ai des trucs aussi. Non, ce qui est le fun, c'est parce qu'à l'époque, tu sais, un peu comme le comic book au début des années 40, 50, 60, tu sais, le comic book est toujours un peu stigmatisé comme étant de la sous-littérature. Puis c'est vrai qu'au départ, c'était assez pulp, puis c'était assez. C'était des dessinateurs moyens qui écrivaient des scénarios un peu moyens, puis c'était pas de la vraie littérature, c'était pas de l'art. Puis pendant. Bon, ça, c'est accepté quand même de plus en plus sur Internet, mais le webcomic au départ, c'est quelqu'un qui avait pas assez de talent, ou sinon qui était rejeté partout ailleurs, qui décide de faire sa bande dessinée, qui est pas publiée sur du papier, ou pour une économie. Puis depuis quelques années, comme ça, je me suis rendu compte, il y a des comics que je lis une, deux, trois, quatre, cinq fois par semaine sur l'ordinateur. Puis sans vraiment connaître les auteurs, sans vraiment connaître et tout leur histoire, puis là, j'ai fait quelque chose de plus approfondi cette semaine là-dessus. J'ai quelques bons conseils, des trucs qui m'ont allumé là, depuis des années. Hein.
Et Sam, on se lance immédiatement, en fait, premier comic, on parle de Ninja?
White Ninja. Donc, puis on en parle, la plupart des comics, c'est le nom.com sur Internet. White Ninja, qui est un espèce de ninja blanc, donc qui est un peu dessiné sommairement, qui est un peu laid. On peut aller le voir, c'est inventé à partir de 2002. Ça, c'est intéressant, mais c'est canadien. C'est deux jeunes de Saskatoon. La plupart des gens ne peuvent pas nommer d'artistes ou de musiciens ou rien de Saskatoon. Tu sais, les deux amis de secondaire. Moi, j'aime les blagues. Qu'est-ce qui me fascine dans la vie aussi, c'est l'humour puis les humoristes. Quand est-ce que tu te retrouves, tu dis, on est drôle. On fait souvent, les gens sont dramatiques. Souvent, les gens sont torturés puis ils font du théâtre. Puis, mais quand, tu sais, les cinq Rocky Belles Oreilles qui se rencontrent, hein, les cinq White Kids You Know, les cinq...
Il y a une dynamique, il y a une ambiance.
T'as une ambiance, il y a un côté, tu fais de l'impro, tu fais quelque chose, mais souvent, c'est des jokes de coin de table. Puis, ça, c'est vraiment drôle. Les cinq sont drôles, gars et filles ensemble. Tu sais. Puis donc, souvent, c'est des jokes de secondaire. Puis des fois, ça va plus loin. Il y a certains groupes de musique qui font ça en bande dessinée. Ces deux-là font White Ninja. Et ils s'échangent des dessins un peu au secondaire. Puis ils trouvent ça drôle. Puis c'est toujours des trucs un peu... La plupart des comics que je parle là, c'est des trucs un peu absurdes, un peu de l'humour... étrange, en quatre cases. Là. Mm-hmm. Puis le White Ninja, donc c'est une espèce de ninja qui a plein d'aventures un peu bizarres avec sa blonde, avec tout le monde, mais c'est toujours une espèce de ninja blanc. Question?
Oui, ben en fait, j'allais dire, est-ce que c'est un peu des défis, les situations dans lesquelles il place? Tu dis que c'est absurde, donc c'est un peu...
Je pense que c'est vraiment comme... Mon mot de l'automne, c'est halluciner, là, puis c'est même pas par rapport à la drogue. Je pense que c'est quelque chose... T'hallucines des trucs, puis c'est ludique, tu t'amuses, là. Puis là, ces deux qui dessinent, donc le White Ninja, un en dessine un, le remet à l'autre le remet, les deux s'amusent. Puis jusqu'à présent, ils ont 1000 comics, donc tu peux aller précédent, ils en ont fait 1000, il y en a 3 par semaine, donc le lundi, le mercredi, le vendredi.
Et ça c'est sur whiteninjacomics.com.
Puis il y a une section qui est le fun sur le site, ça s'appelle, c'est des soumissions faites par les fans, donc fan art par les fans, puis il y en a 2500, des gens qui ont fait des têtes, des toutous, des espèces de figurines, des dessins, d'autres comics avec l'espèce d'univers puis d'ambiance de ça. Puis il y a des centaines de personnes qui ont fait des tattoos White Ninja.
Et parallèlement, dans l'idée justement des concepts et de la relation avec les fans, il y a un autre projet et en fait c'est une jeune dame qui a décidé d'inviter les gens à lui faire des dons et qui raconte en BD essentiellement ce qu'elle reçoit, ce qu'elle fait avec l'argent qu'elle reçoit.
Oui, tout à fait. White Ninja se retrouve en livre aussi. Tu peux le trouver livre. Une autre personne qui a fait des livres, Mademoiselle Dorothée Grambold, qui depuis 1999 fait un comic qui s'appelle Cat and Girl. Quelque chose un peu plus intello, là. T'sais, c'est quand même une espèce de Woody Allen en bande dessinée. Là. C'est la fille qui a des questions existentialistes avec son ami qui est un chat.
Donc, un peu à la Calvin and Hobbes aussi.
Un peu Calvin and Hobbes, mais peut-être un peu plus adulte, là. Puis un truc culture populaire aussi, qu'est-ce qu'il parle. Puis donc, elle, gros succès sur le web. Puis fait du design graphique aussi. Puis finalement, elle s'est retrouvée à publier elle-même ses livres. Puis justement, souvent sur les sites, un petit clic, un petit lien pour faire des dons. Puis la plupart du temps, si t'es tout nu, ça marche. Sinon, les gens te donnent pas de l'argent pour rien. Il faut qu'il y ait une raison de te donner de l'argent. Puis elle, ce qu'elle a fait justement, c'est un don. Elle a dit, si vous m'envoyez plus de 10$, je vais faire une bande dessinée et dessiner qu'est-ce que j'ai fait avec votre argent.
Et c'est un bon concept, sérieusement. Là. C'est vraiment... Parce que les gens veulent en avoir quand même un peu, entre guillemets, pour leur argent, pour leur don.
Oui, puis en plus, c'est une espèce de proximité avec l'artiste, de voir qu'est-ce qu'elle veut faire avec ça. Puis c'est directement ton argent à toi. Puis c'est écrit dans le bas de la bande dessinée, j'ai eu mon 12,50 de telle personne, c'est ce que j'ai fait. Puis là, c'est des trucs qui sont vraiment du quotidien. Elle a acheté du beurre, elle a pris le métro. Puis toujours une espèce de vie un peu pathétique là, de webcomic. Puis son premier recueil s'appelait 8228,40 and a Metro Card. Donc, il y a quand même un livre de 400 pages de tout ce qu'elle a fait avec les dons pendant 2 ans.
Ouais, donc un livre de 8 300 $.
Un livre de 8 300 $ qui est publié. C'est des livres qu'on peut trouver. Ça, c'est Cat and Girl. Qu'est-ce qui est le fun aussi en webcomic? Un autre truc, moi, j'aime les histoires. J'aime les bonnes histoires de héros, puis j'aime les bonnes histoires de vie. Tu sais, des trucs qui sortent un peu de nulle part. Il y a un qui s'appelle Nicolas Gerwitch, qui en 2001 dessinait un petit comic pour son journal d'école. Donc des 3 cases encore, puis il y a ça partie un site qui s'appelle le Perry Bible Fellowship. Donc le Perry Bible, c'était une espèce de c'était l'église catholique de son patelin. Il fait un comic sur le web, c'est immédiatement le gars il a une espèce d'immense talent à tous les styles de dessin, à l'aquarelle, au plomb, en fait, puis c'est tout le temps les 3 cases. Puis à l'époque les 3 cases qu'on lisait c'était dans le journal, justement c'était les Peanuts, les Popeye, je parlais les Moomins. Lui fait ça tranquillement sur le web. C'est tout le temps le web, c'est un peu à la YouTube, là, c'est en nombre de clics. Là. Mm-hmm. Mais tu sais, donc en 6 mois, t'as des millions, 1 billion de clics. Puis Dark Horse, l'appel, qui est la maison d'édition, qui font des Star Wars, ils font tout. Là.
Oui, puis ils ont décidé donc d'éditer ce comic-là. J'imagine que c'est un peu un gage de qualité de dire que Dark Horse décide d'éditer le webcomic que tu fais.
Oui, tout à fait. Puis ça sort un peu de nulle part. Tu te fais appeler, puis il y a une espèce de super beau livre. Donc. Qui s'appelle Perry Bible Fellowship, des trucs que tu peux lire et relire. Ça, je trouve ça très très bon. Puis l'appel, c'est comme une espèce de success story qui est intéressant du web.
Et les histoires, en fait, tu le mentionnais, Sam, c'est absurde, c'est punché, c'est particulier.
C'est super super savoureux tout le temps. Je veux dire, c'est des trucs que tu peux lire et relire en 3 cases. C'est comme une espèce de format qui est assez, je pense, difficile à remplir. Là.
Ouais, c'est le format gag classique. Je veux dire, c'est le gag de journal, ouais. Mais un peu plus, disons, un peu moins quotidien.
Le gars a arrêté d'en faire. Puis en fait un par année maintenant. Puis tu peux encore le retrouver. Il est comme dans, je sais pas trop, 250 journaux à travers le monde. Il a été racheté dans le New York Times et tout parce que tu vois que c'est savoureux. Dernier truc, si vous allez sur Internet, Homestar Runner, c'est très bon. Cyanide et Happiness, qui sont 4-5 amis qui font les comics, qui se relancent la balle aussi. Axe Cops, allez voir Axe Cops, c'est deux frères. Un de 29 ans qui fait le dessin, puis un de 5 ans qui fait le scénario. Donc le jeune de 5 ans, il n'y a aucune censure. C'est magnifique parce que le frère veut percer en comics, ça fonctionne pas trop. Il a pas d'idée, il demande à son frère de 5 ans, invente-moi un scénario. Puis ça va être, mettons, un tyrannosaure qui tire des roquettes avec un policier avec une hache, puis okay. des avocats, puis des citrons, puis déjanté.
Ça donne le ton, comme on dit.
Mais c'est sur Internet, sinon tapez webcomics sur Internet, il y en a des milliers, là, puis c'est magnifique.
Oui, puis je vais rappeler peut-être les liens, ceux d'aujourd'hui, en fait, whiteninjacomics.com, catandgirl.com, pbfcomics.com, ou sinon explosm.net, donc explosm.net. Sam Murdoch, merci beaucoup.
Merci à toi, Raymond.
Et on se dit à très bientôt.
Yes.
Alors ben nous, on repart en extrait musical, et au retour, Jean-Sébastien Bérubé et Radisson. Raymond Poirier toujours avec vous. C'est La Vie en BD sur les ondes de CKRL. Petit extrait musical qu'on vient d'entendre. Donc, c'est Late Night Voyage. Et bon, on va parler de voyage, mais pas nécessairement de voyage de nuit. Probablement des voyages un peu moins relaxants que celui qu'on entend musicalement. Il s'agit des voyages de Radisson qui, vous le savez peut-être, sont mis en BD depuis déjà quelques temps par l'auteur Jean-Sébastien Bérubé. Un troisième tome qui est arrivé tout récemment chez Les Libraires. Troisième tome qui s'appelle Coureur des bois. Jean-Sébastien Bérubé est avec nous au bout du fil. Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va très bien, merci.
Et en fait, pour se remettre en contexte, donc c'est la série donc Radisson, série de bande dessinée qui est inspirée par la biographie donc de Pierre Esprit Radisson. Et qu'est-ce qui fait Jean-Sébastien que cette vie-là fait une bonne BD qu'on va s'intéresser à ça et que ça va bien se transposer dans le fond en bande dessinée?
Ça va bien se transposer en bande dessinée parce que premièrement c'est de l'aventure, hein. Le personnage de Radisson, il a vécu beaucoup d'aventures, puis bon, c'est pas pour rien que j'en ai fait une bande dessinée parce que je voulais pas faire une bande dessinée de n'importe quel personnage historique. Puis Radisson, donc, c'était un aventurier explorateur, puis il a vécu tellement de choses incroyables que c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'en faire une bande dessinée.
Oui, puis en même temps, quand on regarde un peu l'histoire du Québec, si on compare à des Champlain, des Cartier, des Montcalm, Radisson, je sais pas, c'est quand même un peu le rebelle, d'une certaine
ouais,
façon.
Oui, c'est ça. Ben, c'est une autre raison pourquoi j'ai voulu en faire une bande dessinée. C'est justement, moi, j'aime beaucoup son côté rebelle, justement. Le fait que, comment je pourrais dire ça, le fait qu'il fait pas comme les autres, moi, j'ai vu en lui un personnage très coloré, ouais.
Et le troisième tome donc de cette série-là qui arrive, Coureur des bois, pour se situer un peu dans l'histoire, on est un peu plus vers au sommet de la carrière de marchand de Coureur des bois de Radisson.
Oui, c'est ça. Le troisième tome, ouais, ça se concentre sur le voyage que lui et son beau-frère des Groseilliers ont fait pour aller chercher des fourrures dans le Nord-Ouest, donc la baie du Thon. Puis c'est dans cet album-là que Radisson devient véritablement coureur des bois de profession.
Et bien entendu, on dévoilera pas les punchs, malgré qu'on peut toujours les trouver en histoire, mais disons que tout ne se passe pas nécessairement bien. Et ce qui est toujours fascinant, je pense, d'un épisode à l'autre, c'est de voir à quel point la vie de Radisson, vous parliez d'aventure tout à l'heure, effectivement, c'est une vie absolument rocambolesque, c'est hallucinant.
Ben oui, mais oui, c'est d'autant plus excitant pour moi d'en avoir fait une bande dessinée parce que quand je fais un album de Radisson, j'étudie sa vie, donc j'apprends plein de trucs intéressants puis des trucs complètement fous finalement rocambolesques comme vous dites.
Et justement, comment on fait un peu le travail? Est-ce que déjà au départ vous aviez fait un peu un découpage la biographie en fonction d'un tome 1, 2, 3, 4?
Comment je fonctionne, c'est que je lis son autobiographie plusieurs fois, puis j'essaie de couvrir, exemple, s'il fait un voyage, ben j'essaie de rentrer tout le voyage du début à la fin dans un album pour qu'il y ait, comment je pourrais dire ça, que l'album coupe pas en plein milieu d'une histoire là qui est pas finie.
Mm-hmm. Donc d'essayer de s'assurer justement qu'il y a une cohérence narrative, puis en même temps de trouver aussi un punch, que ça finisse sur quelque chose d'intense d'une certaine façon.
Ouais, c'est ça. En fait, comme la série est prévue en 4 albums, j'avais déjà divisé à la base chacun des albums. J'avais déjà à peu près qu'est-ce que j'allais faire. On sait que le tome 1, ça raconte la capture de Radisson par les Iroquois, puis il vit chez les Iroquois pendant 2 ans, puis à la fin de l'album, il réussit à s'évader. Donc c'est comme ça que je fonctionne, en fait. C'est le début et la fin d'une aventure pour chacun des 4 albums.
Et en même temps, on parle du premier, par exemple, où j'ai l'impression que c'était beaucoup une recherche d'identité. Dans le troisième, c'est plutôt lui versus les autorités. Donc, il y a toujours quand même un antagonisme, une réflexion, un positionnement de Radisson par rapport à lui-même, par rapport à son temps aussi.
Oui, c'est ça que, en fait, un des enjeux pour moi quand je fais cette bande dessinée-là, c'est de restituer fidèlement la psychologie du personnage, parce que il écrit toutes ses réflexions, puis ses conflits intérieurs dans son autobiographie. Puis une de mes préoccupations principales, c'était de rendre ça justement dans la bande dessinée sa psychologie, ses réflexions.
Et donc, on se fait un petit peu un index sur le côté en disant, bah, OK, là, ici, il vit, fait qu'on essaie de trouver une manière par le dessin, par les dialogues, par l'action, de mettre en évidence un peu cette réflexion-là?
Ouais, ben en fait, pour ce qui est du dessin, moi je voulais avoir un dessin plus expressif que réaliste dans la bande dessinée, comme c'est une bande dessinée historique à la base. Ben comme le sujet est très documenté, puis que c'est une biographie, ben je m'étais dit que j'allais rendre me donner plus de liberté dans le dessin, puis en faire un dessin plus expressif que réaliste, puis. Au niveau du c'était quoi votre question donc?
Mais puis dans le fond, c'est à travers ce dessin là à travers ce trait qu'on réussit justement à rendre Addison, à rendre sa réflexion. On se donne pas de barrière en fait au niveau du dessin, par exemple.
Non, c'est ça. Puis je voulais pas. Ben en fait, c'est sûr que au niveau du dessin, bon, tout est documenté malgré tout. Même si c'est pas un dessin très réaliste, tout est documenté. Les décors, les costumes, tout ça. J'ai fait des recherches pour tout ça. Mais ouais, c'est sûr que. Et étant donné que Radisson, en plus, c'est un personnage qui est rebelle, tout ça, je voulais avoir un côté comme ça dans le dessin.
Et comme vous dites, en fait, il y a le côté moins réaliste, mais en même temps, on sent qu'il y a une certaine précision historique dans les maisons, dans les armes, les costumes et le reste. Est-ce que je me trompe ou il y a une certaine recherche qui est faite derrière tout ça aussi, côté
oui,
visuel?
Oui, tout à fait. Ben en fait, c'est... Comme je fais une bande dessinée qui se déroule au 17e siècle, ben fallait, je veux dire, pour qu'on y croit, fallait que les fusils soient des fusils de cette époque-là, les maisons la même chose, les costumes, tout ça, fallait que tout ça soit tel qu'on les voyait à cette époque-là, ben pour que ça soit crédible.
Et est-ce que vous faites vérifier un peu vos éléments par des gens un peu plus férus d'histoire avec l'expérience?
Ouais, pour le premier album, j'ai fait vérifier mes trucs par des historiens pour le premier album, puis ben pour la suite pour les autres albums, ma recherche était déjà faite, donc mais j'ai fait valider les informations que j'avais par les historiens avant de commencer le premier tome.
Oui, parce que à la longue, au fil des tomes, on s'entend que l'habitude vient aussi que, j'imagine, dessiner Addison devient de plus en plus une seconde nature, entre guillemets, là.
Ouais, c'est ça. Puis aussi, c'est les mêmes choses qui reviennent à chaque fois, là, les mêmes maisons, les mêmes costumes.
Et dans ce que vous en proposez, j'ai l'impression aussi qu'un jeu avec les cadrages, avec les moments, je veux dire, il y a un côté très cinématographique à Addison, là.
Ouais, ben en fait, comme c'est de l'aventure, comme c'est une biographie, de l'aventure, de l'action, dans ma tête, je voyais ça comme un film, donc c'est pour ça que j'ai adopté une façon très cinématographique des cadrages dans la BD, parce que je voyais ça dans ma tête comme un film, là.
Et il y a une attention portée au paysage aussi, justement. On a toujours conscience des grands espaces dans lesquels il se trouve, dans lesquels on place cette action-là. Moi, je trouve ça agréable pour le lecteur aussi. On s'imprègne peut-être un peu plus facilement de l'ambiance à travers ça.
Ouais, ben au sujet des grands espaces, c'est sûr que c'est un facteur qui est majeur dans l'histoire, parce que ben on sait tous que en Amérique du Nord, c'est ça, là, les grands espaces, puis. Aussi, c'est je voulais représenter le fait que à cette époque-là, les Français qui débarquaient ici, ils étaient tous impressionnés justement par ces grands espaces-là, puis ils voyaient ça comme l'abondance en tout à perte de vue. Puis c'est un peu cette impression-là que je voulais donner quand je dessine les décors dans mes albums.
Et donc, on peut découvrir la suite des aventures de Radisson, donc avec le tome 3. Bien entendu, pour ceux qui viennent d'entendre l'existence de cette série-là, on suggère de commencer au tome 1 et de remonter tranquillement, parce que c'est, si on le rappelle, c'est vraiment la biographie que vous mettez en image, que vous adaptez à votre source. Est-ce qu'on pourrait dire aussi avec votre objectivité à vous ou votre subjectivité à vous?
En fait, au niveau de l'histoire, ce qui est écrit dans les bulles, dans les textes, c'est vraiment tiré de son autobiographie. Donc, moi, en fait, je mets de moi dans le dessin, mais pour ce qui est du texte, je m'en tiens aux faits tels qu'ils ont été racontés dans son autobiographie.
Et le quatrième tome, donc vous disiez, ça va être le dernier. Ça, c'est, est-ce oui. qu'on est déjà un échéancier? Parce que j'ai vu sur votre blog, berubd.blogspot.com, que vous aviez déjà commencé le travail, là.
Oui, j'ai commencé. En fait, j'ai à peu près le tiers de fait. Normalement, cet album-là devrait sortir l'automne 2012. Là, je sors un album à chaque automne, dans le fond.
Ah ben, on peut joindre donc la série en action donc avec le tome 3, Coureur des bois, qui est disponible chez Glénat Québec. Jean-Sébastien Bérubé, merci beaucoup.
Ben, je vous remercie beaucoup, ça me fait plaisir.
Inversement. À la prochaine.
Salut.
Ah ben voilà, donc Radisson, tome 3, Coureur des bois, c'était l'auteur Jean-Sébastien Bérubé. On prend une courte pause au retour, Bastien Vivès.
Vous pourriez vivre vos rêves les plus fous. Parce que ce vendredi, le gros lot du Loto Max est de 50 millions, plus les Max Millions, évalués à 17 lots additionnels de 1 million de dollars.
Montcal, Limoilou, Saint-Jean-Baptiste, l'ancienne Lorraine.
Les Duchesses 2.0 sont de retour pour une troisième année. Tu as toujours rêvé de porter un tutu en tenant une chainsaw? Tu habites Québec et tu as toujours voulu devenir une Duchesse? C'est possible, n'attends plus. Duchesse et histoire. Nouveauté cette année, il y aura un Duchesse. Mesdames et messieurs de 18 à 108 ans, rendez-vous à revengeanceduchesse avec un S.com et remplissez le questionnaire pour devenir Duchesse. Date limite, 18 novembre. La revengeance des Duchesses 2012. Ce sera la fin du monde.
Tu es vraiment infernal.
Le 25 novembre, participez à la Fête de la solidarité. Une soirée cabaret organisée par le Fonds de solidarité des groupes populaires de Québec au profit de la défense collective des droits. Venez déguster un souper chili préparé par le Café Babylone et danser avec nos invités. Zic Non Bombs, Flavia Nascimento, Stéphane Robitaille et Ja and I. Vendredi 25 novembre à partir de 17h30 au Centre Horizon. 801 4e rue dans Limoilou. Entrée 10$. Informez-vous sur sgpq.org 418-529-4407. La fête de la solidarité est rendue possible grâce à la Caisse d'économie solidaire, le Café Babylone, la Boîte à pain, Michel Yacoub, Agnès Maltais, la coopérative La Mauve, la Ville de Québec et CKRL.
Le gala de CKRL est de retour pour une quatrième année et c'est maintenant le temps de voter.
Comment peut-on l'expliquer?
Votre participation compte pour 50% du résultat. Rendez-vous sur le site de CKRL et faites-nous connaître vos émissions favorites.
Un monde en apparence inaccessible.
Les gagnants seront dévoilés le 25 novembre prochain.
Qu'est-ce que cela signifie?
Vous avez jusqu'au 20 novembre pour voter. CKRL.qc.ca. Parce que c'est maintenant à votre tour de vous faire entendre.
Mon intelligence se révolte!
Remember how I'm going to live forever.
Lundi, 17h30, le théâtre et la danse sont à l'honneur au 89.1 avec les Enfants du Paradis en compagnie de Robert Boisclair. Seulement au 89.1.
C'est KRL 89.1.
Cultive tes goûts.
Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e Avenue, 418-529-3829.
Toujours à l'écoute de La Vie en BD sur les ondes du 89.1 CKRL jusqu'à 18h30, bien entendu. Votre magazine consacré à la bande dessinée, le fanzine, l'illustration et l'animation. Et on le dit d'entrée de jeu, on va profiter du Salon international du livre de Montréal pour jaser avec un auteur qu'on aime bien ici à l'émission, qui nous a offert des très, très beaux livres. On n'a qu'à penser notamment à Dans mes yeux, Au goût du chlore ou plus récemment à Paulina. Alors, Bastien Vivès, bonjour.
Bonjour.
Alors, peut-être, en fait, j'aurais envie de qu'on se lance peut-être sur cet avant-dernier né, parce qu'il y a Pour l'Empire aussi qui est arrivé en cours de route, mais Paulina, que j'ai beaucoup apprécié, qui est nominée, qui a obtenu plusieurs prix, qui en obtiendra peut-être d'autres, qui sait. Une bande dessinée sur la danse, sur la relation maître-élève aussi, qui est un peu le cœur de ce que vous racontez dans ce volume-là.
Oui, c'est un débat. Comment dire, quand je prends le goût du chlore ou dans mes yeux, tout ça, je pense que Paulina est pas
un aboutissement, mais il y a un moment où j'avais envie de raconter autre chose que des relations amoureuses et tout ça, et je voulais parler d'une relation peut-être encore plus forte qui est la relation maître-élève ou la relation même qu'on a par rapport à l'art.
Oui, parce que c'est une réflexion sur l'art, mais en même temps, je pense que vous aviez dit dans certaines entrevues, mais regardez, j'aurais pu la faire sur le dessin, mais c'est peut-être plus intéressant de montrer des gens qui dansent que des gens qui dessinent. Là.
Oui.
Et pourquoi justement avoir envie de réfléchir sur l'art?
Bah, je sais que ça peut paraître un peu prétentieux, mais là, je me sentais bien. Je repensais à ce que m'avaient dit certains profs, je repensais à ce que m'avait dit aussi mon père, et je me suis dit, peut-être là, c'est le moment ou jamais de faire ce bouquin-là. Peut-être qu'après, je serais devenu trop un vieux con blasé, ou je sais pas. Donc, je me dis, là, c'est le moment ou jamais.
Parce que ce livre, Paulina, en fait, vous me dites si je me trompe, mais c'est un peu sur ces professeurs qui nous apprennent pas nécessairement énormément techniquement, mais qui sur la manière de faire, la manière de vivre l'art, leur enseignement devient essentiel, capital.
Oui, c'est des gens qui il y a plusieurs types de professeurs, des gens qui m'ont énormément appris et qui ont surtout un bagage technique, ils m'ont appris beaucoup de choses, mais vraiment ce qui était il y a des gens qui peuvent vous transmettre le feu, et ça c'est ce qui est et ça ces gens-là on en rencontre une fois, deux fois dans notre vie, mais qui nous donnent la passion. Moi je sais que par exemple mon père m'a essayé de m'apprendre beaucoup de choses du dessin, parce que c'était un peintre illustrateur, mais il m'a surtout appris, transmis ce que c'était pour lui l'art, et je partage un peu sa vision.
Et nécessairement, c'est cette vision qui va définir ensuite ce que vous faites sur la page.
Oui, voilà. Et après, dans le niveau du bagage technique, mon père, il prenait des méthodes qui n'étaient pas du tout les miennes. Mais il y a ce passage un peu de flambeau, quoi, cette transmission.
Et donc, c'est un peu c'est inspiré de cette relation-là, de d'autres que vous avez mis un peu comment vous les avez ressentis à travers ce personnage-là, à travers celui de Paulina.
Ben, il y a pas mal de ma relation avec mon père, mais aussi de professeurs, mon professeur de cinéma que j'avais quand j'étais en école d'animation, ou ce genre de choses-là, et à travers différents personnages dans le bouquin, qui sont même, par exemple, sa professeure au théâtre, l'allemand qu'elle va rencontrer pendant son voyage à Berlin, même son professeur, le chorégraphe qu'elle rencontre quand elle est en Hongrie, et tout ça, et ben, c'est différent entre différents professeurs que j'ai pu avoir ou différentes personnes qui m'ont vachement aiguillé dans ce que j'ai pu faire et qui m'ont construit au fur et à mesure.
Et la relation, en fait, si on reste un peu sur celle de Paulina Bodzinski, malgré que j'ai l'impression qu'on peut étendre aussi ça à d'autres personnages avec d'autres types d'émotions, mais le sentiment qui les joint, qui est pas nécessairement très clair, en fait, qui est de l'admiration, qui emprunte pudeur, qui est pas clair, mais qui est en même temps extrêmement compréhensible, j'imagine que ça doit être un défi de réussir à bien le rendre dans le dialogue, dans la page, dans le trait, dans le dessin.
C'est pas évident, et j'ai beaucoup recommencé, surtout le début. Et ce qui était important pour moi, c'était que Paulina et Bodzinski, il y a quelque chose qui les unit. Et même si j'ai volontairement mis cette chose assez cette union assez floue, parce que je voulais que ce soit quelque chose de très personnel et qu'on se dise, bon, on ne sait pas ce que c'est, mais en tout cas, quand on parle de Bodzinski, Paulina, elle s'énerve. Et on ne sait pas ce que c'est, mais en tout cas, Bodzinski, il est là à chaque représentation de Paulina, et c'est quelque chose qui leur appartient à eux. Et c'est quelque chose de très important, parce que ça permettait de créer de vrais personnages. On disait, bon, bah, ils ont quelque chose entre eux, mais c'est comme ça.
Et en même temps, j'ai l'impression que c'est un peu votre qualité, à vous en tant qu'auteur, dans la mesure où vous réussissez justement à rendre ces relations-là, les relations humaines, avec toute leur imprécision, dans le fond, parce qu'il n'y a jamais quelque chose qui est blanc ou qui est noir dans la vie, et qu'on pense à vos protagonistes d'amitié étroite, qu'on pense au goût du chlore avec la naissance de la relation amoureuse à l'intérieur de ce récit-là, ou à Paulina, vous réussissez à rendre justement ce type d'émotion-là et ce type d'intimité-là au sein des personnages.
Ouais, j'aime bien laisser beaucoup de pudeur par rapport à mes personnages, où ils ont leur manière de penser et ils agissent, et j'essaie de dessiner simplement les faits, entre guillemets, et toutes leurs réflexions et pourquoi ils font ça, c'est des choses qui leur appartiennent vraiment.
Et vous avez dit tout à l'heure que vous avez recommencé plusieurs fois, Paulina. Est-ce que c'est un peu dans le début de trouver le ton juste d'une idée à l'autre qui est difficile, et après ça, quand c'est parti, là, ça va, ça marche?
Oui, au début, j'ai fait lire au début, et des amis comme Merwan Chaban m'ont dit, avec qui j'avais fait l'Empire, m'ont dit, bah non, Bojinski, il est extrêmement négatif. Et c'est vrai, je ne m'étais pas rendu compte. À chaque fois qu'il disait une parole, il y avait un ne pas. Et donc, j'ai enlevé tout ça, j'ai réécrit les dialogues, j'ai refait des planches, beaucoup de planches, et pour arriver à ce que Bojinski, même si on le trouve très dur et très et parfois même on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, mais il est jamais négatif. Et c'est un des personnages qui, avec Paulina, lui dit jamais qu'elle doit pas faire ça ou qu'elle doit pas faire ça. Il est toujours...
Et dans vos BD, Bastien Vivès, est-ce que c'est ça un peu la clé, justement, parce que c'est des BD de personnages, donc d'essayer de les rendre les plus tridimensionnels possibles, les rendre les plus vrais possibles par tous les moyens envisageables?
Ouais, je pense qu'une bonne histoire, entre guillemets, c'est avant tout de bons personnages. Et par exemple, je prends Porco Rosso de Miyazaki, juste la relation qu'il a entre le cochon, la petite fille et même... Et même Clara. Donc il y a une c'est juste de voir vivre ces personnages, c'est beau. Et moi je m'en contente parfaitement, quoi. Et j'essaye d'avoir de porter mes personnages, ce qu'on dit, c'est l'histoire de Paulina et puis on le lit comme ça.
Et d'un album à l'autre, vous donnez le droit aussi de réinventer un peu à certains égards votre style graphique. Si on compare par exemple Paulina avec le gris, le noir, le blanc, avec dans mes yeux, où là c'est du crayon de couleur, un dessin plus disons graphique dans le goût du clair. Donc c'est l'idée, c'est un peu de choisir le style de dessin qui va cadrer avec ce qu'on veut mettre de l'avant dans l'album.
Oui, voilà, j'adapte. C'est quand même les bouquins, Paulina, j'ai mis un an à le faire, donc il faut que j'essaie de trouver une technique dans laquelle je suis le plus à l'aise, et puis j'adapte en fonction du propos, et vraiment j'essaie de ne pas me perdre, entre guillemets, dans le dessin, et de ne pas tomber dans des systèmes ou des choses qui vont faire que je vais perdre du temps et que je vais pas pouvoir avoir assez de recul sur mon histoire. Donc j'évite des techniques hasardeuses dans lesquelles je me sentirais pas bien, et je reste dans des choses que je maîtrise plus ou moins, ou alors je sais que le système va faire que je vais pouvoir raconter l'histoire dans les meilleures conditions.
Et pour Paulina, ça m'a fait penser un peu à certains graphismes que vous avez proposés sur votre blog, notamment.
J'avais le dessin que j'avais dans le blog, voilà, c'était un dessin que je faisais assez vite, et je me suis dit, Paulina, vu que ça va être une grosse histoire, et au début j'étais parti sur le dessin du blog. Et même on voit les premières pages de Paulina, elles sont vachement plus noires que sur tout le reste de l'album, parce que là, ça s'est affiné au fur et à mesure. Mais j'étais parti dans un dessin comme sur mon blog.
Et parallèlement, le crayon de couleur dans mes yeux, pourquoi avoir choisi justement d'avoir quelque chose qui est très coloré comme dessin, qui est très aussi, si on me permet l'anglicisme, un peu sketchy à certains égards?
C'était le ce que j'aimais bien avec son couleur, c'était aussi, moi j'ai une sorte de complexe qui est que je peins pas, j'ai un rapport à la couleur très difficile, et donc là c'était à peu près la seule technique à laquelle je me sentais capable de faire d'utiliser le crayon de couleur. Et dans mes yeux, vu que la mise en scène c'était toujours à peu près le même plan, c'est le même cadrage, le personnage est à peu près de la même taille tout le temps. C'est un point de vue subjectif. Moi, je me suis dit, allez, s'il y a un album à faire au crayon de couleur, ce sera celui-là. Donc, je me suis lancé avec.
Pour s'assurer la variété, qu'il y a quelque chose qui se passe dans chaque dessin.
Voilà, parce que si on a toujours la même image, au bout d'un moment, ça va être un peu redondant.
Et d'ailleurs, je me suis toujours demandé d'où vous était venue l'idée de faire une bande dessinée comme ça, où le lecteur, dans le fond, est un peu l'acteur de ce demi-dialogue-là, dont on doit compléter, on doit...
Je sais pas, c'est peut-être parce que... Je joue beaucoup aux jeux vidéo et les Counter-Strike et autres FPS. Je me suis dit, tiens, je vais utiliser le même mode de first person. Mais ce qui m'intéressait, c'était d'avoir le personnage. Déjà, je voulais pas dessiner le mec. Et puis d'avoir le personnage de la fille tout le temps, ce qui fait qu'on peut voir ses réactions quand elle parle et quand elle parle pas, et quand elle écoute. Mm-hmm. Donc c'était bien de pouvoir dessiner des gens qui écoutent.
Oui, puis en même temps, je sais pas, en tant que lecteur, ça change aussi la dynamique qu'on a avec l'album, dans la mesure où on fait pas que suivre et que s'imprégner d'une ambiance, mais on doit y participer, on doit faire notre part, entre guillemets.
C'est un vrai jeu vidéo.
finalement. mais sur les relations amoureuses.
Voilà.
Un FPS, relations amoureuses. Est-ce que vous avez l'impression, Bastien Vivès, qu'au fil des albums, justement, votre style s'affine qu'avec peut-être Paulina et qu'actuellement, en fait, vous avez atteint une certaine maturité dans votre style, dans votre manière de faire, ou vous vous donnez encore le temps de vous amuser beaucoup, justement, à explorer certains styles, certains procédés?
Ah, je pense que, bah, pour ce qui est de la curiosité et d'explorer tout ça, je pense peut-être moins qu'avant. Mais par contre, on te parle de maturité. Bon, ça après, ça, c'est les journalistes et puis les gens qui lisent l'album qui peuvent en juger. Mais je pense que par contre, mon rapport au dessin et j'ai commencé à voir certaines être plus professionnel entre guillemets et de moins me perdre je suis bloqué à un certain endroit, j'arrive mieux à rebondir et j'arrive mieux à reconstruire mon histoire et de m'attaquer au fur et à mesure des histoires plus complexes. Mmh. Et donc ça je me sens plus confiant là-dessus.
Oui, effectivement, parce qu'on voit l'évolution aussi d'un album à l'autre avec le type de problématique auquel vous osez, entre guillemets, encore vous attaquer. En fait, on a l'impression que vous mettez un peu au défi aussi. T'sais, autant que Paulina a dû être un défi, autant, j'imagine, votre prochain travail, votre prochain gros travail sera aussi un défi.
Oui, bah, j'essaye de pas refaire à chaque fois le même album et de surtout par rapport à l'humeur du moment, de faire un album... dans le mort du moment, par exemple, là en ce moment, j'ai passé mon temps à jouer à Street Fighter, et donc je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire un album de baston. Donc, bon, c'est pas un genre dans lequel je connais grand chose, mais je commence à m'intéresser et je pars là-dessus.
Et est-ce qu'on tente justement, on se remet à la table, on essaie de trouver un peu comme pour les autres albums, dans le fond, le style de dessin qui pourrait cadrer, ouais. Le style d'histoire qui pourrait cadrer.
Oui, là, c'est vu que c'est un grand récit d'aventure, je vais faire ça avec deux amis, avec Mickaël Sanslaville et Yves Bigrel, et donc on va faire ça tous les trois et à la mode, dans une méthode de travail proche du manga. Et donc on va tester. On va tester ça et c'est assez excitant.
Et sinon, en fait, en terminant, vos bandes dessinées, que ce soit, je mentionnais le Goût du Chlore ou Paulina notamment, qui ont reçu beaucoup de récompenses, beaucoup de prix, beaucoup d'adulation de la critique, beaucoup d'appréciation du public aussi. Est-ce que ça vous met une certaine pression quand vous vous attaquez à une nouvelle BD, sachant que les attentes peuvent être à certains égards hautes de par la qualité du travail que vous nous avez offert jusqu'à présent?
Le truc, c'est qu'au niveau de la pression, c'est que je me rends compte au fur et à mesure que même si je fais une petite connerie sur mon blog ou un petit truc comme ça, il y a maintenant, je me rends compte que je suis suivi, quoi. C'est que, voilà, il y a des gens qui apprécient mon travail et qui vont tout regarder. Et donc, il y a moins de place à faire des grosses conneries, marquer des trucs complètement qui ont absolument pas de sens, comme j'adore le faire sur Internet, ou faire des albums un peu plus blagues ou potaches, comme j'ai toujours aimé. Et là, tout d'un coup, chaque chose est prise avec plus de sérieux et plus de considération. Et donc, là, je viens de sortir une BD de cul, une BD porno en France.
Oui, les Melons de la Colère.
Les Melons de la Colère. Et donc là... Là, je commence à me rendre compte de ce que c'est. Je pense que j'aurais sorti cet album avant, j'aurais eu aucun problème et compagnie. Et là, tout d'un coup, c'est jugé avec un autre prisme. Enfin, je veux dire, c'est jugé avec d'un autre point de vue.
Mais on continue de vous suivre, bien entendu. Donc, il y a Paulina qui est sortie il y a quelques temps. Il y a d'autres projets qui s'en viennent. On peut vous suivre sur votre blog également. On l'a mentionné, bastienvivès.blogspot.com. Bastien, merci beaucoup.
Oh, bah merci beaucoup.
Et bonne fin de journée à vous. Bonne poursuite au salon.
Bah, la même. Hein.
Au revoir.
Merci.
Alors voilà, c'était Bastien Vivès et son dernier né, du moins plus récent, Paulina, donc disponible sur KSTR. On repart avec un dernier petit extrait donc de cet album de Vels, Guilty Ghosts. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur CKRL 89.1 et c'est le moment de l'émission où on accueille notre collaborateur de la semaine et cette semaine, Thomas-Louis Côté. Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va très bien, toi.
Ça va très bien également. Et Thomas Louis, en fait, cette semaine, tu nous amènes sur le terrain du contrat d'auteur, en fait, donc la mécanique un peu derrière tout ça. Et pour mettre en contexte, c'est en lien avec une démarche qui a été faite à Quai des Brumes.
Oh, c'est Quai des Bulles à Saint-Malo. Bulles, voilà. Oui, ben ça, c'est le groupement des auteurs de bande dessinée, rassemblement d'auteurs qui fait partie du syndicat national des auteurs et compositeurs, qui a lancé à l'occasion de Quai des Bulles un contrat commenté. C'est-à-dire, ils ont récupéré les contrats d'à peu près tous les éditeurs avec les auteurs qui sont membres du regroupement et ils ont fait un modèle type du contrat d'éditeur et ont ensuite commenté chacun des clauses de ces contrats-là. Donc, c'est vraiment un exercice qu'ils ont fait à l'attention de leurs membres, mais aussi de tous les nouveaux auteurs et les gens qui s'intéressent à ce genre de démarche-là.
Oui, parce que ça devient important dans la mesure où, quand on se lance en édition, c'est pas toujours... Comment ça marche, la mécanique des contrats? C'est quoi qu'il y a dans un contrat? C'est quoi qu'il faut qu'il y ait, qu'il faut qu'il y ait pas?
Exactement. Puis en tant qu'auteur, j'en suis pas un moi-même, mais j'ai déjà travaillé pour faire un projet où j'ai eu à travailler avec les contrats. Et c'est un casse-tête parce que les contrats en édition, surtout en bande dessinée, comportent plein de clauses, autant pour le produit lui-même, qui est l'album, mais les produits dérivés, les traductions, l'exploitation numérique et tout. Donc, ça devient un casse-tête. Et je peux comprendre qu'un nouvel auteur qui arrive dans ce domaine-là, qui se fait proposer un beau contrat par un éditeur européen ou québécois ou autre, ait de la misère à s'en sortir.
Et surtout dans le contexte aussi où il n'y a pas seulement un auteur sur une BD, il peut en avoir deux, trois, quatre, je veux dire, scénaristes, coloristes, etc., etc.
Oui, ben, t'sais, dans la situation idéale, un auteur est seul, il fait tout par lui-même. Mais en bande dessinée, c'est très, très rare qu'un auteur... Ben, c'est très rare. C'est pas vrai maintenant, il y a beaucoup de bandes dessinées d'auteurs, puis il y en a eu depuis longtemps. Mais c'est quand même plutôt rare que des auteurs font tout seuls. Donc souvent, ils vont travailler soit avec un scénariste ou un coloriste, ou les deux. Puis si on parle du marché américain, où les contrats sont autres, et je connais peu, mais les gens... vont travailler autant avec un dessinateur qui va faire le crayonné, un autre qui va être l'encreur, un autre qui va faire le lettrage, un autre les couleurs. Et les gens seront pas nécessairement propriétaires du personnage pour lequel ils travaillent, qui va être même ça issu d'un autre auteur. Donc c'est vraiment des situations complexes. Au marché européen, les contrats classiques avec des gros éditeurs, c'est moins probable. Par contre, les auteurs sont souvent propriétés de leur propre personnage ou de leur propre série. Donc.
Et donc, ça devient une belle occasion aussi, c'est ce qu'on s'en saisit ce soir, pour le grand public d'aller explorer cette mécanique-là qui est habituellement pas disponible au vu et au su de tout un chacun.
Oui, mais moi, je vous inviterais, dans un premier temps, je vais vous donner le lien pour aller chercher le contrat commenté, si jamais ça vous intéresse. Ça serait sur le site du Syndicat des auteurs de bande dessinée, donc www.syndicatbd.org. Donc, sur ce site-là, vous allez pouvoir télécharger, puis le... C'est un contrat qui est commenté, mais aussi illustré. Donc, ça peut être très intéressant, même pour quelqu'un qui s'intéresse simplement à la bande dessinée.
Et donc, qu'est-ce qui en ressort de ce contrat-là? Quels sont les constats qu'on peut en faire? C'est quoi la situation actuelle?
Ben, si on regarde, dans un premier temps, on va regarder pour ce qui est de la portion qui revient à l'auteur dans le terme d'un contrat. Ça veut dire que souvent, les gens achètent un livre sans trop penser quelle est la portion qui va directement à l'auteur. C'est un peu mystérieux. Dans bien des cas, mais en termes de livres, c'est quand même assez standard pour tous les genres de livres. Donc, en bande dessinée, 40% un prix de vente. Disons, si on se donne un album qui coûte 20$, ben, il y a 40% de ce montant-là qui va directement au libraire. Donc, ce qui est quand même un bon montant. Mmh. On parle après ça d'un 20% qui va au distributeur et il y a un 20% qui va à l'éditeur. Donc, il reste 10% qui normalement va à l'auteur. Donc sur un album de 20$, on parle de 2$ par album qui va à l'auteur ou aux auteurs. Parce que tu parlais tantôt de travailler avec un scénariste, un coloriste, un dessinateur. Le montant est souvent partagé dans tous les collaborateurs qui ont travaillé sur l'album. Des fois, le coloriste, ça fait partie d'une entente à part, mais souvent, en tout cas, c'est partagé au moins entre le scénariste et le dessinateur, ce qui fait vraiment pas beaucoup.
En fait, si on fait le calcul à partir du 2$ et qu'on divise en partie, déjà, on se rend compte que c'est pas aux ventes, disons, qui vont faire le plus de sous. Là.
Non, ben dans certains cas, des grands succès, par exemple, des choses comme Titeuf de Zep, c'est publié à 1,4 million d'exemplaires, oui, c'est payant. et quand t'as un succès comme ça aussi, ça te permet de négocier ta marge pour en avoir plus. Cependant, si on regarde un album au Québec où le succès d'un album est d'environ 1000-1200 exemplaires, il y en a beaucoup qui vendent 400-500 exemplaires, ça fait vraiment pas vivre l'auteur. Donc, c'est important de comprendre ça, parce que des fois, on parle souvent que les auteurs sont des gens qui cherchent les subventions et tout ça, mais les bourses de création viennent vraiment aider à la production, parce que de vivre seulement des droits d'auteur, c'est vraiment pas l'idéal. Ce qui arrive souvent, du moins du côté européen, maintenant, ça s'installe du côté québécois aussi. C'est ce qu'on appelle les avaloirs. Ça veut dire que l'éditeur, au départ, va faire un pari et va donner un montant d'argent représentant, par exemple, les ventes sur 10 000 albums. Un montant qui va être divisé soit à la planche ou qui va être divisé tout au long de l'année, qui va permettre quand même à l'auteur d'avoir un certain revenu. Il y avait une vieille façon de faire qui est en train de disparaître. Par exemple, Dupuis fait ça, je crois encore. C'est de payer à la page en plus d'un avaloir. Donc, ça fait vraiment là une façon de vivre convenablement. Mais c'est pas quelque chose qui existe au Québec. Donc, les gens reçoivent maintenant habituellement un montant qui correspond à un certain nombre de ventes, ce qui est une vente, une avance, et ce montant-là n'est pas remboursable. Donc, si l'auteur vend 10 000 albums et qu'il y a eu un avaloir pour 10 000 albums, il va recevoir des droits par la suite sans problème. Mm-hmm. S'il vend, par exemple, 5 000 albums, l'éditeur lui demandera pas de rembourser le 3 000.
C'est le pari que l'éditeur a pris.
Exactement.
Et inversement, est-ce que si l'album vend 12 000, 15 000 copies, l'éditeur garde sa marge parce que l'auteur a accepté que c'était 10 000?
Au sens où si l'entente est sur 10 000 et que l'éditeur en vend 12 000, l'auteur va recevoir le droit d'auteur sur les ventes supplémentaires.
Donc, c'est quand même assez avantageux pour l'auteur, ce type de fonctionnement-là.
Exactement. Mais souvent, maintenant, les avaloirs, étant donné que la production est énorme, les avaloirs sont plus bas et ça devient de plus en plus difficile de négocier aussi.
Et on imagine, comme on le disait tout à l'heure, en fait, d'une région à l'autre, Asie, Europe, Québec, États-Unis, la dynamique devient différente parce que la dynamique de création est différente.
Exactement. Il y a beaucoup plus de gens impliqués dans la création de comics américains, par exemple, que de la bande dessinée européenne classique, ou même dans le manga, c'est une autre chose complètement. Donc, je suis pas familier avec les types de contrats qu'il peut y avoir.
Non, mais ça nous permet de garder en tête, en fait, on parle du contrat typique européen, québécois, principalement. Et dans ce contexte-là aussi, Thomas Louis Côté, tu le mentionnais d'entrée de jeu, le numérique qui vient un peu changer la donne aussi dans tout ça, là.
Oui, mais il y a une grosse problématique maintenant avec les droits d'auteur par rapport au numérique. Souvent dans les contrats, les contrats d'édition incluaient tout ce qui est adaptation, utilisation pour les produits dérivés, droits numériques, traduction et tout. Et les auteurs commencent à revendiquer le droit de garder certaines portions, donc de donner à l'éditeur le droit à la diffusion papier, mais en se gardant la diffusion numérique ou les traductions ou les produits dérivés. Donc, certaines personnes ont parti leur propre maison d'édition. On parlait tantôt de Midam, qui a parti sa propre maison d'édition, Mad Fabric, pour Kid Paddle, afin de tout gérer. Mais dans la réalité, c'est peu d'auteurs qui ont la chance de faire ça. Donc, à moins de s'auto-éditer, ce qui est quand même plutôt pas la norme dans la bande dessinée, quand on veut faire affaire avec une bonne diffusion des éditeurs reconnus, les gens cherchent de plus en plus soit à débuter leur diffusion par le numérique, ce qu'on parlait de blogs, beaucoup de blogs qui ont été transformés en albums, donc.
Et dans ce contexte-là, est-ce qu'on peut dire aussi que la donne change un peu parce que le fichier qui est fourni à l'éditeur est prêt à l'impression? Je veux dire, il y a juste à formater un peu les choses puis à l'envoyer imprimer puisque les planches sont déjà scannées. Il reste.
Mais effectivement, le travail d'auteur a changé beaucoup avec la venue du numérique. On parle qu'avant, les auteurs devaient dessiner leurs planches à la main, c'était donné à quelqu'un qui faisait la couleur à part, et ensuite l'éditeur devait scanner ou traiter les planches pour les rendre imprimables. Maintenant, beaucoup d'auteurs travaillent directement en numérique et vont fournir des documents à l'éditeur qui sont prêts pour l'impression. Ou même s'ils travaillent papier, souvent les auteurs préfèrent scanner eux-mêmes leurs planches pour les colorer numériquement par la suite, ou même à la main, et contrôler le produit comme eux le veulent. Donc, la marge de qui est donnée à l'auteur n'a pas nécessairement évolué, mais le travail d'auteur, lui, a quand même évolué beaucoup.
Ça, parce qu'éventuellement, il faudra qu'il y ait un rebalancement. On peut l'espérer pour les auteurs.
Oui, ben je pense que des initiatives comme le contrat commenté puis le syndicat des auteurs de bande dessinée en France fait que ces questionnements-là sont arrivent et qu'il y a des discussions avec les regroupements d'éditeurs pour justement discuter de ça.
Et on parlait d'auto-édition. Est-ce qu'il y a d'autres, justement, d'autres approches qui émergent, des manières d'association pour l'édition, pour les auteurs, pour mettre de côté un peu l'éditeur dans certains cas, dans certains projets?
Oui, ben si on regarde, j'ai relevé deux façons de faire. La première étant la façon de 8comics.fr, donc 8 en chiffre comics avec un x.fr, qui est un regroupement d'auteurs. On parle de gens comme Alfred, Jouvré, Pedroza et d'autres, qui rendent du contenu gratuit. Donc, des créations originales gratuites. Et eux vont voir après ce que ça mène. C'est une expérience qu'ils ont fait, qu'ils ont lancé, je crois, à Angoulême l'an dernier. Mm-hmm. Et c'est intéressant de voir où ça va mener. Parce que c'est certain qu'en faisant ça, ces auteurs-là ont une certaine renommée et vont quand même normalement réussir à republier ça en imprimé si des éditeurs se montrent intéressés.
C'est l'idée que l'objet reste important.
Oui,
là.
Donc ils vont quand même avoir un contrôle sur la version numérique de leur produit avant de le mettre en imprimé. Ce qui était le cas quand on parlait des blogs tantôt. Sinon, il y a aussi une initiative comme lesautresgens.com qui est une initiative de Thomas Caden qui scénarise une histoire mais qui est dessinée par plusieurs auteurs. Donc, tous les jours, ils mettent de nouvelles planches en ligne. C'est sur abonnement, donc c'est payant. Mais ça contourne tout ce qui est éditeur pour le moment. Et il existe des éditions papier de Les Autres Gens, mais eux réussissent par abonnement à tirer un revenu et les auteurs sont payés pour fournir leurs planche au quotidien. Donc, c'est une autre façon de faire qui risque de faire des petits. Ça.
Oui, puis qui vient financer, dans le fond, le processus de création qui, parfois, on a besoin d'appui externe, qui vient compenser certains manques, entre guillemets, côté revenus.
Exactement. Ça reste que c'est pas des revenus énormes parce que le prix à la planche n'est pas énorme, mais c'est intéressant. Et en même temps, les éditeurs commencent, eux aussi, à se regrouper pour faire des initiatives de diffusion. Donc, on parle de Isneo, qui est un regroupement de différents gros éditeurs européens. Donc, isneo.com. Et ça, c'est vraiment un lieu où tu peux louer les bandes dessinées, les acheter. Les prix sont assez bas, mais ça reste du numérique. Moi, je suis pas un fan de la lecture sur l'iPad et tout ça.
Alors, on fait plusieurs avenues à surveiller. Pour l'instant, je rappelle le site que tu as mentionné, Thomas Louis, pour voir ce contrat commenté, donc syndicatbd.org. C'est donc sur le site du groupement des auteurs de la bande dessinée du Syndicat national des auteurs et compositeurs. Alors, c'est bien intéressant comme forêt dans ce monde-là. Ouais. Et c'est intéressant de voir aussi les possibilités qui sont développées. On aura sûrement l'occasion de s'en reparler en cours de route.
Ben, bonne fin de journée.
À toi aussi, merci beaucoup.
Au revoir.
Thomas Louis Côté, on se revoit le 9 décembre.
Exact.
Et ben nous, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. Dans quelques instants, c'est l'équipe de 100% Dynamite qui va prendre la relève. Et nous, on vous revient vendredi prochain dès 17h30. Notamment, Michel Rabagliati sera avec nous pour parler de son dernier né, Paul, au parc. Alors, c'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir de vous accompagner ce soir. Passez une excellente semaine sur les ondes du 89.1.